Alors, si vous voulez prendre le deuxième livre des rois, 2 rois, chapitre 2, versets 1 à 14. 2 rois, chapitre 2, verset 1. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait « mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux. Et il releva le manteau d'Élie, qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux et dit « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux, qui se partagèrent ça et là, et Élisée pas ça. Alors, on en est maintenant au dernier miracle d'Élie. Et c'est en même temps la transition entre le prophète Élie et le prophète Élisée. Ça faisait quelque temps qu'Élie avait pris un peu Élisée sous son aile et c'était en vue de sa succession. Donc, Élie allait passer la main et c'est l'heure maintenant de la transition. Mais Élisée ne semble pas pressé de laisser voir partir son père, hein, un peu son mentor, hein, son maître. Il veut pas le laisser partir. Et l'enseignement que l'on peut tirer de cette histoire, ça se résume en une phrase. C'est cette phrase que j'aimerais que vous reteniez. Si vous la retenez, vous aurez retenu l'enseignement. Celui qui veut la bénédiction demande la bénédiction et il obtient la bénédiction. Voilà, c'est très simple, hein. Certains diront, mais c'est pas si simple que ça. Pourtant, c'est bien l'enseignement ici que nous lisons dans la parole de Dieu. Celui qui veut que Dieu soit sur lui, que Dieu le remplisse, que Dieu le bénisse, alors, eh bien, il le demande et Dieu le fait. C'est ce qu'on voit ici pour Élisée. Et on va voir que Dieu, eh bien, l'a fait aussi pour d'autres personnes dans la Bible. C'est sa manière d'agir. Et Dieu voudrait donner beaucoup à ses enfants, et voudrait donner davantage même. Mais si on reçoit peu, c'est qu'on attend peu, et c'est qu'on demande peu. Alors, eh bien, on reçoit peu. Celui qui veut la bénédiction demande la bénédiction, et il obtient la bénédiction de Dieu. Élisée était aux côtés d'Élie, et Élie représentait Dieu finalement, hein. On l'a déjà dit. Le prophète de l'Éternel représentait l'Éternel auprès de ceux qui étaient autour de lui, qui le voyaient. Et on comprend donc qu'Élisée ne voulait pas quitter Élie, parce que c'était finalement se rapprocher de Dieu que se rapprocher auprès d'Élie. C'est un petit peu comme les disciples, quand ils avaient le Seigneur, ils voulaient rester avec le Seigneur parce qu'ils avaient entendu les paroles du Seigneur et Dieu parlait au travers de Jésus qui était lui-même le Fils de Dieu. Et c'est de la même manière, Élisée voulait pas quitter Élie. Élisée avait vu Dieu se manifester au travers des paroles, au travers des miracles qu'Élie avait fait. Alors, eh bien, il voulait rester en présence de l'Éternel. Être près d'Élie, ça signifiait pour lui être près de l'Éternel. Et il est aussi intéressant de relever une image un peu en filigrane dans toute cette histoire, une image de la vie chrétienne. Parce que ce que l'on reçoit du Seigneur, ce que l'on reçoit de lui, ça correspond aussi à une progression, une maturité. On avance et on reçoit davantage et on reçoit encore. Et il y a un désir d'avancer, un désir d'aller plus loin, de recevoir encore et Dieu donne encore. Plus on veut, plus on s'applique à chercher l'Éternel, plus on trouve l'Éternel, plus on mûrit, plus on grandit en l'Éternel. Et plus on trouve cette bénédiction qui est liée. Celui qui veut la bénédiction demande la bénédiction, il obtient la bénédiction. Deux Rois, chapitre 2, verset 1. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. C'est la première étape, il part de Gilgal. C'est aussi probablement votre première étape, ou si c'est pas le cas, ou pas encore le cas, Dieu veut que ce soit votre première étape. Ça, c'est quelque chose de sûr, hein. Il veut que vous passiez par Gilgal. D'où vient ce nom de Gilgal? Gilgal, ça vient d'un nom qui signifie rouler. Rouler. Et Gilgal, c'est l'endroit où Josué a pris les enfants d'Israël qui allait entrer dans le pays de Canaan, et c'est là qu'il les a circoncis. Pourquoi ? Parce que eh bien, tous les enfants qui étaient nés du peuple qui était sorti d'Égypte n'avaient pas été circoncis dans le désert. Et donc, Josué, avant d'entrer dans le pays de Canaan, dit, eh bien, il faut faire ce que Dieu a dit, il faut vous circoncire. Ils allaient entrer dans le pays et il fallait que le signe de l'alliance entre Dieu et son peuple repose sur ses enfants. Finalement, ils n'étaient pas encore pleinement dans l'alliance avec Dieu, donc il fallait qu'il y ait ce signe. Alors, eh bien, Josué les a circoncis et maintenant, ça y est, ils étaient vraiment dans cette alliance avec l'Éternel. On peut prendre Josué, si vous voulez, chapitre 5, verset 8, pour ceux qui voyage le mieux dans la Bible, Josué 5, verset 8. Il est dit, « Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. » Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. » Donc Gilgal, c'est le lieu où Dieu a roulé l'opprobre de l'Égypte de dessus d'eux. Et si l'Égypte, dans la Bible, ça représente le monde, ça représente la vie passée, ça représente l'idolâtrie, ça représente le péché, Gilgal, c'est le lieu où on roule ça et on rompt avec le passé. Donc on met ça derrière. Bien que circoncis, leurs pères qui sont morts dans le désert, on peut dire qu'ils étaient quand même sortis avec tout l'esprit de l'Égypte. On le voit avec le veau. Dès qu'ils ont fait, ils ont eu l'occasion, hop, ils se sont fait un veau. Et puis aussi toute leur manière de faire, leur réaction tout de suite, c'est oh, c'était bien mieux en Égypte. Franchement, on était bien mieux là-bas, plutôt que de servir l'Éternel dans le désert. Donc on voit qu'ils étaient bien imprégnés de cet esprit de l'Égypte. Mais pour leurs enfants ici, il fallait que ça change et qu'on roule toute cette opprobre de l'Égypte et qu'on la passe derrière. Repousser la honte qui s'attache à l'Égypte. Pour nous, ça peut peut-être être notre image de la conversion, où eh bien on roule l'opprobre de la vie passée, on roule l'opprobre du péché, tout ce qui est attaché au péché. Et Jésus, eh bien, nous fait entrer dans une alliance, mais la nouvelle alliance, l'alliance en son sang, celle où son sang purifie de tout péché. Et on peut dire, c'est le premier pas. C'est le premier pas que vous avez fait ou que tout le monde doit faire. Si vous ne l'avez pas fait, alors Dieu vous appelle à faire ce premier pas. Si vous savez qu'il vous manque un pas avec le Seigneur, ben c'est ce premier pas-là. C'est le pas où on s'approche de Jésus et on place sa foi en Jésus-Christ qui a versé son sang et il roule l'opprobre de notre vie passée, de notre vie de péché, de notre vie de rébellion où nous étions loin de lui. Faire ce premier pas, Jésus a dit « Croyez en Dieu, croyez en moi. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Il faut s'approcher de lui, placer sa foi. Et à ce moment-là, il roule notre opprobre. Et ce qui est sûr, c'est que chaque vrai chrétien qui a fait une vraie démarche avec le Seigneur, eh bien, il est passé d'abord par Gilgal. Deux Rois, chapitre 2, verset 2. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Bethel. Et le pas suivant, on peut dire qu'il n'est pas automatique. Il y a quand même un désir, une volonté d'avancer. Et Élisée nous l'exprime bien ici. Hein. Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, l'Éternel m'envoie à Bethel. » Bethel, ça signifie la maison de Dieu. La maison de Dieu. « L'Éternel m'envoie à la maison de Dieu. » En image, ben, l'Éternel m'envoie dans la présence de Dieu, l'Éternel m'envoie près de Dieu. Quelle est la réaction d'Élisée ? L'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Je ne te quitterai point, j'irai avec toi. Et là, il y a le témoignage dans Élisée d'une volonté qui est forte. Il veut aller aussi à Bethel. Et il veut rester avec Élie parce que Élie représente Dieu. Il ne veut pas quitter Élie. Élie va à la maison de Dieu, mais moi aussi j'irai. Hein? Non, moi aussi je vais y aller. Je ne vais pas te quitter. Hein? J'aime Dieu. Je veux être là où est Dieu. Je veux être là où il y a la bénédiction de Dieu. Et celui qui veut la bénédiction, demande la bénédiction, il obtient la bénédiction. Mais il faut le vouloir. Il faut en manifester la volonté. Élisée voulait vraiment cela. Il était hors de question qu'il rate quelque chose. Il voulait suivre Élie. Alors peut-être que Gilgal est derrière nous. Hein. Dieu a roulé l'opprobre du passé, il nous a sauvés. Mais maintenant, est-ce qu'on veut plus ? Est-ce qu'on veut avancer encore ? Est-ce qu'on veut rester dans sa présence ? Alors on va pas s'éloigner d'Élie. On va rester attaché à Élie. On va le suivre. S'il y a une bénédiction quelque part, eh bien on va aller là où il y a la bénédiction. On va vouloir être à Bethel. On va vouloir être à la maison de Dieu. Et une chose importante, c'est que on ne grandit pas avec le Seigneur quand on s'isole. On ne grandit pas quand on laisse les autres aller à la maison de Dieu et que soi-même, on ne va pas à la maison de Dieu. Pendant qu'on resterait soi-même en retrait, on ne grandit pas s'il n'y a pas un minimum de désir, de volonté d'aller vers Dieu. Il faut vouloir la bénédiction pour avoir la bénédiction. D'abord la vouloir, avant de la demander. Élisée voulait plus que tout cette bénédiction, tout comme Jacob. Vous vous souvenez de Jacob ? C'était pareil. Un homme qui veut la bénédiction, il n'y a rien à faire. Hein. Souvenez-vous de Jacob quand il était avec l'ange de l'Éternel. Regardez, vous pouvez prendre Genèse, chapitre 32, verset 24. Genèse 32, verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit « Laisse-moi aller car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Cet homme qui luttait avec Jacob, c'est l'ange de l'Éternel. Hein. C'était l'Éternel lui-même. Et on a ici une illustration d'un homme qui veut la bénédiction. Il la veut vraiment de toute son âme. Hein. Et que dit-il ? Je ne te laisserai pas aller que tu ne m'aies béni. Je le veux. Et finalement, c'est la même attitude qu'Élisée ici. Élisée dit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Élisée voulait la bénédiction au même titre que Jacob la voulait. Et finalement, il faut la vouloir. Il faut vouloir. Il faut la désirer. Je ne te quitterai point que tu ne m'aies béni. Chapitre 2, verset 3, dans 2 Rois. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élisée, c'était un prophète de l'Éternel au même titre que les autres qui étaient prophètes de l'Éternel. Et donc Élisée savait bien ce qui allait se passer. Hein. Il le ressentait, hein. Dieu avait révélé aussi que Élie allait partir. Élie lui disait « laisse-moi aller, je te prie. » Et Élisée savait que s'il laissait partir Élie, eh bien peut-être il le reverrait plus, sûrement il ne le reverrait plus. Alors eh bien il ne veut pas. Et c'est certain que c'était quelque chose de difficile pour Élisée de laisser partir celui qui était son modèle, celui qui était son maître, son père même, il appelle mon père, hein. Parce qu'il était plus âgé aussi. Et voilà, il apprenait tout de lui, de rester dans sa présence, d'être avec lui. Il était porté, enseigné par Élie. Mais bientôt, le jeune homme va se retrouver tout seul pour exercer son ministère. Et quelque part, Élisée ne le veut pas. Il ne le veut pas. Il le sait, mais il ne le veut pas. C'est pour ça qu'il dit au prophète, « Mais laissez-moi, c'est bon, taisez-vous, je ne veux pas entendre ça. Je ne le souhaite pas. » C'est aussi une étape obligatoire dans la vie chrétienne. Vous savez, parfois, Dieu nous donne des appuis. Il nous donne des personnes sur lesquelles vraiment, on se repose un peu comme des tuteurs. Et à un moment, Dieu enlève le tuteur. Il enlève la personne où on avait tout son appui. Là, on se sentait en sécurité et hop, Dieu enlève. Il le fait. Pourquoi ? Parce qu'il veut qu'on apprenne à marcher avec lui et rien qu'avec lui. Moi, tout seul, avec lui. Dieu le veut pour chacun. Versets 4 et 5. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Ici, c'est une étape suivante. Jéricho. Qu'est-ce que peut signifier Jéricho ? Quand on pense à Jéricho, on se souvient que c'est l'étape du combat. Hein? Quand ils sont entrés dans le pays de Canaan, c'était la première ville où ils ont dû combattre. Jéricho, ça représentait la première ville idolâtre, païenne, qu'il fallait combattre. Josué et ses hommes ont d'abord envoyé des espions et puis ensuite, ils ont attaqué Jéricho. Et c'est aussi une étape normale dans la vie chrétienne, entrer dans le combat. À un moment, il faut entrer dans le combat, il faut lutter contre le péché, il faut lutter contre la tentation, il faut lutter contre tout ce qui s'oppose à Dieu dans notre vie. Et quand on veut la bénédiction, eh bien on passe aussi par là. On va aller par là. Le péché, c'est quelque chose qui occasionne de la souffrance. Il faut dire non, il faut repousser la tentation, il faut mourir à soi-même, il faut accepter de renoncer à soi-même. Et ça, c'est difficile, c'est dur, il y a une lutte. Et parfois, le cœur, eh bien, à un moment, il ne veut pas trop chercher à combattre, à lutter. Regardez Démas dans le Nouveau Testament. À un moment, l'apôtre Paul dit, Démas, il m'a abandonné pour l'amour du siècle présent. C'est-à-dire, Démas, eh bien, voilà. Oh ben non, je ne vais pas trop combattre, hein. Je ne vais pas lutter, je ne vais pas faire un pas de plus avec Dieu. Il a déclaré forfait. Il n'était plus dans la bataille. Mais celui qui veut la bénédiction, il ne déclare pas forfait. Il va passer par là, il va combattre. Il voudra aller jusqu'au bout et faire tomber les forteresses qu'il y a dans nos cœurs. Hein. Il y a des forteresses qui sont contre Dieu. Il faut commencer par Jéricho. Dans l'épître de Jean, Jean s'est adressé à plusieurs types de personnes, on va dire. Hein. Il s'est adressé d'abord aux petits-enfants, et puis après, il s'est adressé aux jeunes gens. Et ça correspond à une étape dans la croissance, dans la maturité. Et il a dit aux jeunes gens, « Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » Là, c'est l'étape du combat. Vous êtes avec la parole de Dieu, vous luttez, vous avancez. C'est bien, vous êtes forts, persévérez. Et le Seigneur veut qu'on avance, qu'on fasse le ménage, qu'on se place aux côtés de lui, qu'on prenne son parti, qu'on fasse le choix de Dieu et qu'on renonce aux choses que nous savons qui ne sont pas dans sa volonté. Est-ce qu'on veut la bénédiction? Celui qui veut la bénédiction, il avance, comme Élisée s'est avancé. Élie lui a dit, « Reste ici, je te prie. » Mais Élisée dit, « Non, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Je te suivrai. » Est-ce que ce n'est pas ce que Ruth a dit aussi en son temps? Hein, vous vous souvenez? Est-ce qu'elle ne voulait pas, elle aussi, la bénédiction? Mais oui, elle voulait la bénédiction. Lorsque sa belle-mère, Naomi, a dit à ses deux belles-filles, « Allez, que chacune retourne à la maison de son père, hein, de sa mère. » Orpa, elle a dit, « Bon, allez, au revoir. » Elle est retournée. Et pas Ruth. Ruth, non. Elle a dit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. » Et ça, c'est important. « Ton Dieu sera mon Dieu. » Et finalement, qu'est-ce qu'elle voulait, Ruth? Elle voulait la bénédiction du Dieu de Naomi, l'Éternel, le vrai Dieu. Elle voulait rester sous le regard du Dieu de Naomi, le Dieu des Juifs. Élisée aussi ne voulait pas laisser partir Élie. « Je ne te quitterai point. » Et pour avoir plus de Dieu, eh bien, il faut désirer plus de sa part. Ce n'est pas un péché que de vouloir que Dieu bénisse hein, et que Dieu donne davantage. Ce n'est pas un péché, au contraire. Dieu veut, il veut. Verset 6. Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Élisée ne démord pas. Non, il n'y a rien à faire. « Moi, je reste avec toi, hein. Tu représentes eh bien l'Éternel, je veux rester en présence de l'Éternel et je ne veux pas perdre la bénédiction. » Élie va maintenant au Jourdain. Le Jourdain, finalement, c'est le fleuve, c'était le fleuve principal du pays de Canaan à l'époque, c'est toujours le fleuve principal du pays d'Israël. Et sans le Jourdain, eh bien, ce pays-là n'aurait jamais été un pays où coule le lait et le miel. Hein. C'est le Jourdain qui arrose le pays. Et en même temps, le passage du Jourdain, c'est vraiment l'entrée dans le pays de la promesse. Le Jourdain, mais c'est là où était la bénédiction. Au-delà du Jourdain, eh bien, c'était entrer dans le repos que Dieu avait préparé longtemps à l'avance pour eux. Dieu avait promis ce repos, comme il nous le promet. Hein. Il y a donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Et le repos, eh bien, il se trouve au-delà du Jourdain. Le chrétien n'est pas appelé à vivre dans le désert, hein, dans la misère spirituelle, dans la sécheresse, hein, mais il est appelé à vivre dans le repos et dans l'abondance en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Et c'est ça que Jésus donne, c'est ça qu'il offre. Il donne l'abondance et le repos en lui. Il donne la joie en lui. Il donne des victoires en lui. Pas exempt d'épreuves. Hein? Plusieurs prières se sont élevées par rapport aux épreuves. On a des épreuves, mais il y a quelque chose de plus. Hein? En lui, on vit les épreuves autrement. Hein? Le juste n'est pas épargné, mais l'Éternel l'en délivre toujours, toujours. Mais avant d'arriver au passage du Jourdain, Élisée a manifesté le désir d'avancer. Élisée ne voulait pas se contenter du peu qu'il avait déjà reçu, mais il voulait encore davantage. Il ne voulait pas rester à Gilgal, il ne voulait pas rester à Bethel, mais il voulait être partout où Dieu était. Il aimait Dieu, c'est pour cela qu'il était attaché à Élie. Alors il n'arrête pas de dire, mais je ne te quitterai point. Non, je ne te quitterai point. Est-ce que on a ce même désir, cette même envie d'aller plus loin, de désirer plus, hein, d'être avec l'Éternel, de s'approcher de lui, d'être avec ceux qui rendent réelle sa présence? Parce qu'Élie, finalement, c'est ça. Il rendait la présence de Dieu réelle, hein, pour Élisée. Le corps de Christ, les enfants de Dieu, rendent réelle la présence de Christ. C'est dans le corps de Christ que Jésus est. Élisée est parti de Gilgal et il a montré une vraie volonté d'avancer, de ne rien rater. Il est passé par Bethel, par Jéricho et finalement par le Jourdain. À la fin du verset 6, on lit « Et ils poursuivirent tous deux leur chemin ». C'est la première fois qu'on lit ça ici. Ils poursuivirent tous deux leur chemin. Ils sont en train d'avancer ensemble. Ici, il y a une image de la communion, hein, une image de l'unité. Ils étaient ensemble, ils avançaient. À noter qu'Élie n'a jamais vraiment insisté parce qu'il lui dit « Je te prie, reste ici », mais il n'insiste pas. Hein, il n'est pas en train de lui dire « Mais non, ça suffit, laisse-moi, hein, je veux être tout seul. » C'est vrai que Élie devait ressentir aussi, hein, il savait que Dieu allait l'enlever, il ne savait pas comment, pas encore. Et donc, il se disait, est-ce que c'est bien qu'Élisée assiste à mon départ, hein? Alors il lui dit, je te prie, ben reste ici. Hein? Il essaye un peu de prendre de la distance. Hein? Mais le but, c'était pas de le priver de la communion. C'était pas de ne pas marcher avec lui. Et Dieu veut qu'on marche ensemble. Hein? Il veut que nous marchions avec lui. Il veut qu'on passe par ces différentes étapes de la maturité, hein, toutes ces lieux, ces villes. Mais ça se fait avec de la volonté. Hein. Il faut faire un pas de plus et un pas de plus. Si vous n'avez pas envie d'aller au culte le dimanche matin, Dieu ne va pas prendre votre lit et hop, vous allez vous réveiller là au milieu de nous tous. Hein. Ça serait peut-être bien ou pas bien, je ne sais pas. Mais l'idée, c'est qu'il faut se lever. Hein? Il faut dire je veux faire un pas de plus, je veux avancer, je veux recevoir la bénédiction. Versets 7 et 8, 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Alors ce miracle, il n'est pas sans rappeler un autre miracle qui s'est produit avec Josué, parce que c'est le même miracle finalement, avec le même fleuve. Avec Josué, le peuple donc est arrivé, ils allaient entrer dans le pays de Canaan. Ils sont arrivés au Jourdain et Dieu avait donné cet ordre à Josué. Il avait dit « Tu donneras cet ordre au sacrificateur qui porte l'arche de l'Alliance ». Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Donc les sacrificateurs se sont avancés dans le Jourdain en portant l'arche. Et d'un seul coup, en étant au milieu du Jourdain, les eaux se sont arrêtées en amont. Elles ont commencé à s'accumuler et puis l'eau a filé de l'autre côté, en aval. En sorte qu'Israël, eh bien, tant que l'arche était au milieu, est passé à pied sec, tranquillement, au milieu du Jourdain. Pourquoi Dieu a-t-il fait cela? Ça nous est clairement dit dans Josué, je vous le lis. Hein. il est dit « À ceci, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hétiens, les Éviens, les Phérésiens, les Guirgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. » Donc ce miracle, c'était pour rassurer le peuple, pour dire « Mais ayez confiance, allez-y, je suis avec vous, je vous le montre encore une fois ici en arrêtant les eaux du Jourdain. » Et c'est toujours ce que Dieu fait finalement. Hein. Quand on entre aussi dans la vie chrétienne, quand on entre dans le combat au départ, eh bien Dieu fait quelque chose. Il fait un miracle, il fait des petits miracles à notre hauteur, pour nous montrer « je suis avec toi, avance, hein, fais-moi confiance, hein, je t'accompagne ». Et ça nous rassure. Hein, et puis on se dit « oui, c'est vrai, Dieu est là et hop, on a plus de zèle pour avancer, on s'émerveille ». Et notre foi est affermie. Et c'est précisément ce que Dieu voulait faire aussi pour Élisée, jeune prophète. Dieu n'a pas arrêté les eaux du Jourdain simplement parce qu'il n'avait pas envie que ces deux prophètes ne se mouillent pas les pieds. Mais il a arrêté pour un but précis. Ce n'était pas non plus un excès de zèle, hein, un peu comme un magicien. Hein. Et Élise dit, oh, allez, hop, bing. C'était pas ça, hein. Il y avait un but derrière tout ça. C'était pour affermir le jeune Élisée dans son ministère. Et d'ailleurs, Élie fait ce miracle et juste après, tout de suite après, il pose une question. Verset 9, « Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je ne sois enlevé d'avec toi. » Et parce qu'Élisée venait tout juste d'assister à ce miracle, tout de suite, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Parce qu'il venait de voir ça. Et on arrive ici à mon deuxième point qui sera plus court, je vous rassure. Hein. Deuxième point, celui qui veut la bénédiction demande la bénédiction. C'est simple. Simple. Et c'est quelque chose qu'on oublie de faire. On oublie tous. Hein. Pour recevoir, il faut demander. Dieu peut donner, Dieu veut donner, mais il le fait en réponse à la prière. Et je m'en aperçois pour moi-même. Hein. Trop souvent, on compte sur les choses comme si elle devait aller d'elle-même. On se dit, normalement, ça doit se faire, quoi. Hein, c'est logique, c'est la volonté de Dieu. Puisque Dieu le veut, je sais que c'est la volonté de Dieu. Alors Dieu va le faire. Ça va se faire tout seul, naturellement. Et non. Et non. Dieu ne le fait pas, même si c'est logique, il ne le fait pas. Et il ne le fait pas parce qu'on le demande. Élie a dit à Élisée, demande ce que tu veux que je te fasse, que je fasse pour toi. Et dans cette parole d'Élie à Élisée, finalement, il y a la parole que Dieu nous adresse. Est-ce qu'il ne nous a pas dit, demandez et vous recevrez. Demandez. Et on ne demande pas réellement. Où on ne demande pas suffisamment quand on demande, où souvent on ne demande pas du tout. Et Dieu est très clair, hein? Il répond à des demandes. Le fait que ce soit sa volonté, ça ne veut pas dire qu'il nous l'accordera obligatoirement. Il pourrait le faire, ça semblerait bien qu'il le fasse, mais il ne le fera pas. Pourquoi ? Parce qu'il a établi une loi, comme il y a les lois de la physique. Eh bien, pour ses enfants, il y a une loi, c'est la loi de la prière. La loi de la prière. Il nous impose cette loi qui nous oblige à la communion et à la dépendance de sa personne. On est obligé. Demandez et vous recevrez. Donc, si celui qui veut la bénédiction et qui la veut comme Élisée, il va la demander. Il faut qu'il la demande. Ça veut dire que Dieu attend qu'on formule des requêtes qui soient claires, qui soient compréhensibles, pertinentes. Et c'est souvent la pauvreté de nos requêtes, la pauvreté de notre vie de prière qui fait la pauvreté aussi de notre vie spirituelle. On n'obtient pas simplement parce qu'on ne demande pas. Ou bien on demande mal, comme dit Jacques. Hein. Il est vrai que parfois on prie, hein, mais on ne prie pas pour les bonnes choses. Alors, eh bien, on ne reçoit pas, hein, évidemment. On ne reçoit pas. C'est comme si on n'avait pas réellement prié. Mais celui qui veut la bénédiction, il va la demander. Et puis, il va demander les bonnes choses, inspiré par Dieu. Il va se mettre sur la pensée de Dieu. Hein. Qu'est-ce que Dieu veut? Il va les demander. À noter qu'Élisée va répondre, verset 9, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élisée, qu'est-ce qu'il demande? Il demande la capacité d'exercer le ministère qui lui a été confié. Il ne demande pas des choses qui sont aux antipodes de la pensée de Dieu, mais il demande ce qui est précisément dans la volonté de Dieu. Il avait été choisi pour être un prophète, alors eh bien, il demande l'esprit qui rend capable d'être un prophète. Dieu a dit à Salomon, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Et Salomon a répondu, « Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux ?» Quel est le résultat? Mais Dieu accorde. Dieu accorde, et même il accorde au-delà de toute mesure. Hein. À noter qu'il n'a pas fait automatiquement, mais il a fait en réponse à une requête de Salomon. Il a dit, mais demande. Si tu demandes rien, tu n'as rien. Mais si tu demandes, eh bien, je te donne. Et Dieu nous dit la même chose. Demande ce que tu veux que je te donne. Et si c'est en accord avec sa pensée, dans sa volonté, mais alors on va recevoir, mais en abondance. En abondance. Et même au-delà. Alors vous vous demandez peut-être, mais qu'est-ce que je peux lui demander? Mais posez-vous d'abord la question de ce que Dieu attend de vous. Quel est son plan pour vous en ce moment? Qu'est-ce qu'il voudrait pour vous? Dans la transformation de votre personne, il y a déjà du travail. Et pas de problème, c'est sa volonté. C'est sa volonté de nous changer, de nous transformer. Sans aucun doute. Dans le témoignage à rendre, c'est sa volonté. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est sa volonté. Dans le service des frères et sœurs, mais il y a du travail aussi. C'est sa volonté. Il veut nous équiper, il veut nous rendre capables de servir, de faire du bien autour de nous. Dans la sanctification mutuelle, la mienne, mais aussi celle de mes frères et sœurs, il y a du travail aussi. Hein. Je peux demander aussi des choses. Et Dieu exaucera. Dieu va agir. Dans le fait de s'aimer les uns les autres, on a du travail. Demandons, Dieu va exaucer. Et dans toutes ces choses, et il y en a d'autres, hein, eh bien on peut demander avec assurance, avec une pleine assurance. Celui qui veut la bénédiction demande la bénédiction. Il faut demander, c'est impératif. Dieu veut nous exaucer au-delà de ce que l'on peut imaginer. Et si on reste pauvre, hein, comme des mendiants spirituellement, si on ne change pas dans notre vie, si on ne progresse pas, si on garde de l'amertume, si notre vie chrétienne est lourde, elle est pesante, si on se traîne, on est responsable. C'est parce qu'on ne demande rien, ou on ne demande pas, ou on ne demande pas comme il faut. Il faut se souvenir de cet aveugle dans les évangiles. Vous vous souvenez? Il a crié sur le bord du chemin, « Fils de David, aie pitié de moi! Fils de David, aie pitié de moi !» Lorsque Jésus l'appela, la première chose qu'il lui a dite, c'était « Que veux-tu que je te fasse ?» Mais c'est évident. C'est évident. Je suis aveugle, Seigneur. Non, non. « Que veux-tu que je te fasse ?» Je veux que tu le formules. Je veux que tu me le dises. Que ça sorte de ton cœur, de ta bouche. Alors, Rabboni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé, recouvre la vue. Et il recouvra la vue. Et il le suivit dans le chemin. Et la chose, elle était simple, hein, mais il fallait la demander. Celui qui veut la bénédiction, il demande la bénédiction et il obtient la bénédiction. Regardez 2 Rois, chapitre 2, versets 10 et 11. Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Et comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Alors on imagine Élie avec un air un peu surpris. Ouh, tu demandes une chose difficile, hein? C'est bien audacieux mon petit, hein? Quand même. Comment l'Éternel pourrait faire une chose pareille? Demander comme ça le double. Mais finalement, Élisée avait l'audace de la foi, l'audace de la foi. Il avait foi dans un grand Dieu, dans un Dieu puissant qui lui permettrait vraiment d'accomplir le ministère qu'il lui confiait. Alors dans son audace, marqué par le miracle qu'il venait de voir au Jourdain, il demande la grâce de faire plus et même de faire le double. Alors il ne demandait pas pour satisfaire ses intérêts personnels. Il ne demandait pas pour se glorifier lui-même. Il ne demandait pas un but qui était déraisonnable, qui était insensé. Mais il demandait avec audace la grâce de pouvoir eh bien, exercer son ministère prophétique avec une grande puissance et Dieu exauça. Pour Élie, c'était difficile. Quand il entend ça, il se dit c'est difficile. Mais pour Dieu, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Et ça doit nous encourager ce matin à élever le niveau de nos prières et de nos requêtes. Nos prières sont souvent petites, petites, faibles, au regard du Dieu que nous servons. Alors, il pourrait faire des choses grandes et on lui demande une chose toute petite. C'est comme Jésus qui entend cet homme lui dire « Si tu peux quelque chose, viens au secours, aie compassion de nous, si tu peux. » Jésus lui dit « Mais si je peux quelque chose, si tu peux. » C'était cette requête n'était pas à la hauteur de Jésus-Christ, fils de Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Messie. C'était vraiment ridicule de dire « Si tu peux. » Et il faut qu'on prie des prières qui sont à la hauteur de notre Dieu, des prières de foi, des prières audacieuses, tout en restant en accord avec la pensée de Dieu, avec la volonté de Dieu. Demandons que Dieu bénisse nos familles. Demandons que Dieu bénisse notre Église. Demandons que Dieu bénisse l'enseignement. Demandons que Dieu bénisse la sanctification, notre sanctification, les uns et les autres. Hein. Que Dieu bénisse les âmes qui ont soif. Demandons beaucoup pour beaucoup recevoir. Je crois qu'il y a un cantique dans les ailes de la foi qui le dit ça. Demandons beaucoup pour beaucoup recevoir. On n'a pas l'habitude de le chanter, mais je suis déjà tombé dessus en feuilletant. Demandons beaucoup. Celui qui veut la bénédiction la demande et il obtient. Versets 12 à 14 pour conclure. Élisée regardait et criait « mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là et Élisée passa. Ici, c'est le premier miracle qu'Élisée va faire, hein. Miracle que Dieu lui a inspiré par Élie et qui va permettre qu'il prenne de l'assurance. Hein. Il va faire ça et voilà, il va se dire « Mais Dieu a exaucé, Dieu est avec moi. » Et il va rentrer dans son ministère prophétique et miraculeux. C'était pour lui montrer que Dieu était bien avec lui, comme il avait été avec son prédécesseur. Alors, eh bien, que son exemple nous motive ce matin à vouloir, à demander et à obtenir. On va continuer la prochaine fois avec Élisée. On va s'incliner maintenant dans la prière.